RMC.
Rebound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket tous les mardis à télécharger en podcast sur rmc.fr. Et c'est un podcast qui est un vrai phénomène de société car désormais nous sommes téléchargés partout dans le monde. Ouais. Les téléchargements gonflent, enflent de manière exponentielle semaine après semaine. Et je pense que le podcast d'aujourd'hui va encore faire grand bruit car le thème est fantastique. Enfin, nous allons faire un Basket Time sur les Bad Boys de la NBA. Voici pourquoi le casting est le suivant. Stephen Brun, Arnaud Valadon et Fred Weiss. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Salut Pierre.
Je sais pas lequel incarne le mieux l'appellation Bad Boy. Me regarde pas avec ta regard de méchant, Stephen. Maintenant que je te connais, je sais que tu as absolument rien d'un Bad Boy.
J'avais dit que j'étais un Bad Boy, gros.
Ah, je pense que Fred, il y avait un potentiel.
C'est
non,
un pistolet que j'ai eu, c'est un pistolet à eau. Hein.
Arnaud, non, il est bonhomme, Arnaud, il est gentil. Fred, il a un côté obscur, c'est vrai.
Il a un mauvais caractère.
Qui pourrait se révéler.
Fred, il a un nerf. Tu sais, les pistolets.
C'est juste le niveau au-dessus, quoi.
Attention, un nerf, ça peut faire mal à bout pourtant. Hein. Il y a des belles armes de poing quand même.
T'en as à la maison ?
Bien sûr, il y a des nerfs, il y a des enfants, donc il y a des nerfs.
Ah, d'accord.
Et ça shoot les Playmobil à distance.
Bravo.
Alors, attention, spécial Bad Boys. Pourquoi ? Parce que Ja Morant a révélé, peut-être au monde de la NBA, eh bien qu'il en fait peut-être partie de ces Bad Boys. Drôle d'histoire et grosses conséquences. On va en parler dans ce podcast. Ja Morant a-t-il un avenir en NBA, les Grizzlies en difficulté, est-ce que tout est relancé à l'Ouest, et puis bien sûr la partie historique, il ne faudra pas la rater car vous allez me raconter l'histoire d'un bad boy, celui que vous avez choisi, pour diverses raisons, ça c'est total, c'est carte blanche totale.
Un vrai bad boy.
Tu as vu le film Bad Boys ?
Non.
Jamais vu.
Ça vaut le coup ?
T'as jamais vu Bad Boy ?
Non, ne regarde pas comme
ça. Et Will Smith c'est qui dans
Will Smith.
Mais je l'ai pas vu, hein. On va pas en faire un fromage.
Will Smith c'est Chris Tucker, non c'est pas ça.
Non, c'est Martin Lawrence.
Vous l'avez
Martin
vu, Lawrence, mais vous avez pas retenu grand chose.
Si j'ai retenu, je viens de te le dire, Martin Lawrence.
Il y aura un quiz, alors attention.
Un quiz prison.
On va pas refaire un quiz sur les Grizzlies.
Oui.
Parce qu'on l'a déjà fait il y a pas longtemps. En revanche, ce sera un quiz dont je vous donne la thématique tout de suite. Bad Boy, Good Bear. Mauvais garçon, gentil ourson. C'est le thème du quiz, je vous en dis pas de plus, rendez-vous tout à l'heure.
Et Winnie ?
Basket. Ah, peut-être qu'il pourrait pointer sa truffe, Winnie. Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
Ja Morant has been suspended for at least 2 games for showing a gun on his Instagram live.
In the video, the All-Star guard appeared to be wearing a diamond pendant that he was gifted by Nike at the NBA All-Star game last month.
But here's a statement from Ja. I take full responsibility for my actions last night. I'm sorry to my family, teammates, coaches, fans, partners, the city of Memphis, and the entire Grizzlies.
Alors, Ja Morant, la star des Memphis Grizzlies, est suspendu par sa franchise, mais il risque beaucoup plus gros si la NBA s'en mêle, et a priori, bah, la NBA va s'en mêler car il a exhibé une arme à feu dans une boîte de nuit de Denver et ça la NBA n'aime pas depuis maintenant une grosse décennie. Il n'y a plus aucune tolérance pour ce genre de frasque. Ça nous ramène à une époque pas si lointaine, celle de Gilbert Arenas. C'était en 2009, donc celle des bad boys de la NBA. Un mot sur l'affaire pour commencer, Arnaud. Qu'a-t-il donc fait ce Ja Morant ?
Alors le garçon a montré une arme en direct sur Instagram. Vous entendez le son ? Alors qu'il était en soirée, cela remonte à vendredi dernier, et la question des armes est un sujet évidemment très sensible aux États-Unis. La vidéo a fait le tour du monde. Memphis l'a suspendu pour 2 matchs minimum. Aucune date de retour n'est pour l'instant fixée. La NBA a ouvert une enquête et il pourrait coper de 50 matchs de suspension. Mais c'est pas fini. La police du Colorado va également mener des investigations puisque les faits ont été commis dans cet état et qu'il est interdit de se balader avec une arme en ayant bu. La NBA aussi de son côté interdit le port d'armes dès que le joueur représente sa franchise ou la NBA, c'est-à-dire un entraînement ou par exemple dans un vol pour changer de ville et disputer des matchs. C'est pas la première fois que Morant défraie la chronique. Il est accusé cet été d'avoir frappé un jeune de 17 ans et de l'avoir menacé avec une arme. Et il y a aussi cette histoire dans les coursives du FedEx Forum Forum, la salle des Grizzlies, un SUV dans lequel Morant se trouvait et qui passe à côté là, de membres de Pacers. Et à ce moment-là, un laser rouge est pointé depuis le véhicule sur des joueurs d'Indiana. Des questions se posent, mais c'est vrai que l'entourage et la famille de Ja Morant, contrairement à certains joueurs dans l'histoire de l'NBA qui ont eu une enfance difficile dans des quartiers défavorisés, lui, il a plutôt grandi dans une ville sans histoire de Caroline du Sud, éloignée des grandes métropoles. C'est vrai que rien, finalement, ne prédestinait Ja Morant dans son enfance à le voir jouer plus tard les gangsters.
Alors, il y a passé, entre guillemets, un environnement sociologique qui peut expliquer des choses, mais on peut aussi sortir d'un milieu pas défavorisé et être complètement dingue. Hein. Ça peut tout à fait être...
Évidemment.
T'en sais quelque chose. Bon, revenons aux conséquences de cette histoire. Parce qu'on sait que la NBA est absolument sans pitié avec ce genre de choses. Il y a eu dans le passé, on y reviendra tout à l'heure, des épisodes malheureux et qui auraient pu aboutir à des drames. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, la carrière de Ja Morant est en danger selon vous, Fred ?
Moi, je pense pas.
Tu penses pas, pourquoi ?
Ça dépend. En fait, ça dépend de son attitude à partir de maintenant. Je pense qu'on aime bien la rédemption du côté de la NBA. On aime bien le rêve un petit peu américain. Donc, c'est-à-dire que si maintenant il fait profil bas, s'il fait amende honorable, s'il fait les choses pour qu'on oublie cette sombre affaire, je pense que ça passera très très bien. Au contraire, on dira c'est une belle histoire, etc. Sauf que s'il maintient cette idée-là, par contre, oui. Il peut être quasiment mort.
Il n'a que 23 ans, il peut prendre un an de suspension, par exemple. Ça peut arriver,
ça. Ça peut arriver. S'il prend 50 matchs, comme c'était arrivé à Gilbert Arenas, ça veut dire que la saison est terminée. On le reverra l'année prochaine.
On verra au mois de janvier prochain.
Maintenant, la NBA a un petit peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que l'image de la NBA, l'image que veut renvoyer la NBA aujourd'hui, c'est une ligue propre. On rappelle, il y a 50 ans maintenant, ils ont tout nettoyé parce que la NBA, c'était drogue, et David Stern est arrivé
ouais.
et a tout nettoyé, et il rigole pas avec ce genre de choses. Sauf que la problématique, c'est que Ja Morant, c'est un peu le futur de la ligue. On arrive sur une fin d'ère de LeBron James, Kevin Durant et Steph Curry, et que Ja Morant est amené à être le prochain visage de la ligue.
Le prochain visage américain, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent, et pour avoir un vrai américain, Jason Tatum, il a quelque chose, mais il a pas ce côté super esthétique, j'ai envie de dire.
C'est la prochaine superstar de la ligue, donc il va falloir prendre une décision. Ajouter à ça que cette affaire-là, qui est vraiment liée à la NBA, et Arnaud l'a dit, il y a d'autres affaires en cours. Il a détruit un gamin de 17 ans sur un playground.
Ah, mais il l'avait provoqué aussi, le gamin.
D'accord, mais après il est sorti devant chez lui.
Il
est sorti et Ja Morant avait une arme à la ceinture et la main sur son arme.
Ça ressemble juste qu'un truc où lui et son pote n'ont pas supporté de se faire challenger par un gosse.
Peut-être. Après, il y a une histoire aussi sur un parking où sa mère s'est embrouillé avec un videur de centre commercial. Lui, il a débarqué avec 9 potes à lui, tête contre tête, à vouloir désinguer l'agent de sécurité. Donc, ça fait beaucoup. Et Arnaud l'a dit, il y a des règles aujourd'hui. C'est que vous ne pouvez pas prendre un pistolet dans l'environnement de la NBA. Un avion dans votre équipe, c'est interdit. Dans un vestiaire, c'est interdit. Dans une salle, c'est interdit. Donc, la NBA est en train d'enquêter, plus l'État du Colorado qui est en train d'enquêter. Moi, je pense qu'il va y avoir, une belle suspension pour Ja Morant. Ensuite, il peut perdre gros parce qu'on rappelle qu'il vient de signer un énorme deal avec Nike, où Nike a enlevé Kyrie Irving pour ces histoires aussi qui étaient un peu farfelues. Il récupère un Ja Morant avec une autre histoire qui leur tombe dessus, mais pour l'instant
ça
Nike
s'appelle le pif, ça.
Nike pour l'instant a fait on fait confiance, on voit où ça mène. Il vient de signer il y a une semaine un énorme deal aussi avec Powerade, la boisson bleue, la orange et jaune. Donc il pourrait perdre beaucoup Ja Morant, et après sportivement on en parlera tout à l'heure, mais c'est une énorme perte pour les Grizzlies. Mais cette affaire là elle est problématique. Elle est problématique pour Memphis. Elle est problématique pour la NBA. L'image de la Ligue, on l'a répété, c'est une image qui se veut sans histoire. On rappelle, ils ont mis des dress codes. Rappelez-vous Allen Iverson qui est parti en conflit avec David Stern à l'époque parce que le mode gangster, hip-hop, chaîne en or, c'était pas très bien passé. Moi, je suis pas sûr que ça se termine très bien pour Ja Morant. Alors, il va pas être banni de la Ligue, il a 23 ans. Mais je pense que la suspension va être forte.
L'avantage, c'est qu'il a 23 ans. Tu peux faire passer ça pour une erreur de jeunesse, entre guillemets.
Mais t'es obligé de taper sur les doigts pour éviter que ça se reproduise.
Mais ça, c'est complètement évident. Mais tu tapes sur les doigts. Le mec revient, il se comporte très bien. Ça fait une super histoire, un storytelling. Ils adorent ça, la NBA.
Ah, mais regarde, Gilbert Arenas avait 27 ans et il s'en est jamais remis.
Il a 23 ans. Il a que 23 ans. Il a tant largement s'en remettre.
T'es dans la fleur de l'âge. Hein.
C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu peux encore faire passer ça sur une erreur de jeunesse. À 27 ans, un peu moins déjà. Et le potentiel de Ja Morant en termes d'image, en termes de possibilité de prendre le contrôle de la Ligue, il est bien plus important qu'Arenas.
Arnaud,
Gros défi pour Adam Silver, qu'on annonce potentiellement sur le départ pour aller diriger Disney. Adam Silver, alors c'est des rumeurs, il y a un poste qui se libère à Disney, grosse entreprise, mais il pourrait très bien quitter la NBA dans les mois et les années qui arrivent. Un de ses premiers gros dossiers, on sait que David Stern avait fait un travail colossal en termes d'image, on peut même remonter aux années 80, la drogue, l'alcool, tout ça, on le voit dans The Last Dance avec les Bulls, dans l'état dans lequel est l'équipe où Michael Jordan arrive, donc il y avait déjà eu beaucoup de réformes de la part David Stern pour... pas polisser, mais un peu nettoyer cette ligue. Et là, c'est un gros défi pour le patron Adam Silver de gérer ça. Oui, il va devoir apprendre de sa leçon parce qu'il va être suspendu. Jamorant, est-ce qu'il va apprendre ? Ça, c'est une autre question. On ne peut pas encore le dire, mais clairement, ça va être un...
Arnaud, moi, j'ai une question. Tu parles de David Stern. Il faut quand même se rappeler, à mon sens, qu'à l'époque, c'était systématique. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes dans toutes les franchises. Là, quand tu as un problème, ça peut
mais un gros être, problème.
C'est un gros problème, mais est-ce que c'est pas quand même un épiphénomène que tu peux cadenasser en... Voilà, tu le sanctionnes, il ne joue plus pendant une période, et après il revient.
Mais comme dit Stephen, il faut taper fort.
Il faut taper
alors
fort.
Après, si Morant, il ne comprend pas...
Après, il y a ça.
Ah oui, par contre, il ne comprend
parce
pas.
Que ouais. Tu parles d'éventuellement le retourner pour en faire une belle histoire, mais ce qu'on ignore, et cette question, on ne va pas y répondre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de Ja Morant ? Est-ce que c'est un cancre absolu ? C'est-à-dire,
il veut de la crédibilité de la street.
Est-ce qu'il a juste fait une erreur ?
Et tu sais quoi,
est-ce qu'il est complètement dingo ? Ça, il est trop tôt pour le dire.
Je te dis, il vient pas de la street et il veut de la crédibilité de la street. Donc, il c'est l'image qu'il est en train de renvoyer en tous les cas.
Après, on avait déjà fait un podcast sur les Grizzlies, les bad boys de la ligue. Moi, ça me dérange pas tant que ça reste sur le
terrain. Exactement.
Là, le problème, c'est que c'est sorti en dehors. Après, il vient pas de la street. Dalzell, comté de Sumter, ça a longtemps été la ville où il y avait plus de le plus gros taux de criminalité. Après, moi, je veux pas dédouaner Ja Morant. Aujourd'hui, c'est un garçon qui est multimillionnaire, qui a 23 ans, qui doit aussi susciter un petit peu de jalousie dans le quartier où il a grandi. Et on connaît comment les Américains se défendent. Ils sont très loin de nous, Français. On sait qu'aujourd'hui, les armes à feu, c'est monnaie courante aux États-Unis. J'ai pas envie de lui dire, il a eu raison parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. On n'est pas dans sa situation, Ja Morant.
On sait pas.
Peut-être qu'il prend des menaces. Peut-être qu'il prend des tentatives de racket de sa ville de naissance. On sait pas quel est son entourage. Après, son entourage, il y a des garçons qui manque un petit peu d'intelligence. Comment tu peux laisser Ja Morant en soirée dans un strip club, faire un live Instagram avec des meufs à poil derrière, avec de la tease et montrer un pistolet?
Choisis
bien tes amis.
Stephen, ses amis, ils n'ont pas de thunes, ils raquent pour tout. Tu vas lui dire, non, fais pas ça. Tu dis, tu fermes ta bouette comme la plupart des mecs, malheureusement.
Mais si t'as envie de profiter de l'argent de Ja Morant, de vivre à ses crochets, peut-être que tu te dis, c'est pas bien Ja Morant ce que t'es en train de faire.
T'as envie de te fâcher avec lui? Franchement, c'est la poule aux œufs d'or pour eux. Tu as envie de te fâcher avec eux ? Moi, je crois pas.
Éviter que ça soit en direct sur les réseaux sociaux. C'est juste ça.
Moi,
ça manque d'intelligence.
Ça me fait penser à Entourage, le film. Les mecs, ils faisaient exactement tout ce qu'ils voulaient. Pourquoi ? Parce que c'était leur source de revenus. C'était celui qui allait payer pour tout. Et à un moment, malheureusement, tu deviens le chef de ton gang. Pas parce que t'as plus d'autorité. C'est parce que c'est toi qui amène l'argent.
Rien ne t'empêche d'avoir un brin d'intelligence, Fred. Un mec qui lui tape sur l'épaule en disant là, déjà, tu fais un peu n'importe quoi.
Tu sais que ça arrive très souvent quand même. Et je pense que c'est pas forcément un manque d'intelligence. C'est justement que tu essaies de t'adapter par rapport à ça. Et je te donne pas tort. Bien sûr qu'on devrait, ses amis devraient être capable de le faire, mais je suis pas sûr que ce soit si facile que ça.
Le problème, c'est que Ja Morant, même lui, il est pas capable de se rendre compte qu'il y a déjà une accumulation de conneries sur lui, sur les histoires qu'on a racontées, et là, il va remettre un truc. Il est pas 23 ans ou...
Il a 23 ans, multimillionnaire, tu viens de le dire. Le mec, ça peut faire péter les plombs complets. Enfin, encore une fois, je veux pas le dédouaner, mais il faut aussi, et tu as raison de le préciser, il faut aussi recontextualiser le truc. Le mec a 23 ans, c'est une superstar qui, au départ, n'était pas prévue pour être une superstar, qui n'a pas fait un cursus comme une future superstar.
À la fac, il n'y avait aucune offre à la sortie.
Exactement, donc il faut quand même aussi se rendre compte de ça. Il explose complètement, il devient une superstar, il signe un contrat avec Nike, avec Powerade. À un moment, peut-être que ça fait péter les plombs complets.
Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même beaucoup d'autres garçons dans sa situation, à son âge, qui vivent les mêmes choses et qui ne se comportent pas de cette façon-là.
Tout le monde n'est pas structuré de la même façon.
C'est clairement la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que ce n'est pas le premier écart de conduite. Et là, c'est vraiment important. La police s'en mêle. Mm-hmm. Ce n'est pas uniquement une histoire de NBA, de basket.
Il y a enquête policière plus enquête de la NBA. Donc, quand ça va, les réponses vont tomber.
Ça peut être un crime fédéral en plus.
Oui. Quelle va être l'attitude de sa franchise ? Ils vont plutôt le protéger, d'après vous ?
Taylor Jenkins a eu des propos en disant pour l'instant, il est à côté de l'équipe, le temps qu'il se remette. Son coach, pour le temps qu'il se remette d'aplomb et qu'il se remette. Mais eux, ils sont aussi dépendants de ce que va dire la NBA et ce que va dire l'enquête du Colorado. Maintenant, Memphis est une équipe qui. a eu des bad boys par le passé, mais des bad boys qui sont bien comportés. Zach Randolph a été la tête d'affiche des Memphis Grizzlies, et quand on connaît Zibo, le passé de Zibo, c'est un mec qui s'était plutôt rangé du côté de Memphis. C'est une franchise où il n'y a jamais eu vraiment de mauvaises histoires. Et donc, après, c'est une équipe qui est très jeune, qui n'a pas de papa. Steven Adams s'est absent depuis 18 matchs, donc il ne voyage plus avec l'équipe. Il n'y a pas de daron dans cette équipe pour contrôler les Dylan Brooks, les Brandon Clark, les Jamoran qui ont des pets au casque. Il n'y a pas de daron dans cette équipe pour dire attention, les mecs. Il n'y a pas de
mais
cadre.
Mais c'est vrai, s'il y avait Steven Adams dans l'avion avec eux, le gun, il ne l'aurait pas pris. Hein.
Donc, le cocktail est quand même plutôt inquiétant pour l'avenir de Jamoran.
Si on
fait le bilan de tout ce que vous venez de dire, il y a un vrai danger.
À court terme et à moyen terme, il y a un vrai danger.
À long terme, tu penses qu'il s'en sortira.
Je pense que s'il est suffisamment intelligent, après, je ne connais pas cette structure intellectuelle, mais c'est intelligent.
Il peut faire une très longue pause dans sa carrière. Il était en train de s'envoler, de décoller.
Parce que s'il prend 50 matchs, ça veut dire que tu manques, il reste 20 matchs. Plus les playoffs, je ne sais pas si ça compte, je pense que ça compte dans la sanction.
Tu le revois au mois de janvier, quoi.
Oui. Ça fait 27 matchs, il te reste 25 novembre, matchs.
Décembre, janvier.
Ouais, c'est ça.
Donc ça te fait presque. Et après, mais attention.
Et ça veut dire, et si on va un peu plus loin, ça veut dire aussi éventuellement pas de Tim Hussey, parce que Jamoran, à 23 ans, pouvait prétendre à un poste avec Tim Hussey, soit à la Coupe du Monde,
ça, oui,
soit au JO 2024.
Encore une pierre de plus à l'édifice de l'équipe de France pour être champion.
Est-ce que Tim Hussey aussi, qui veut une image propre, va se permettre aujourd'hui de prendre un gamin qui a fait ce genre de choses-là?
Comment tu peux prendre un mec qui ne joue plus en NBA parce qu'il est obligé de ne pas jouer, tu vois,
oui,
et le prendre en équipe nationale, c'est pas possible.
S'il y a la suspension, la Coupe du Monde, c'est 2023, c'est terminé. Et les JO, en termes d'image, je pense qu'aussi, c'est presque terminé.
Ça dépend son travail d'image.
C'est dommage pour Pierrot, parce que Pierrot adorait Jamoran, le joueur.
J'aime beaucoup le joueur, ah oui.
Le matin, quand je te voyais à 10h, les highlights de Jamoran, tu disais, oh, c'est incroyable.
Tu sais, ça me fait un peu penser, bon, c'est pas exactement la même chose, mais à Baron Davis, quand même, le mec comme ça, très tonique, très juteux.
C'est bizarre. J'adore, c'est bizarre
que... Quand il montait au Tomar, le Baron, c'était quand même...
Alors, c'est bizarre que Neymar ait pas fait ses conneries encore. Ça fichait avec un pistolet à Bougival.
Pistolet à eau, oui.
Tu sais que Neymar, il y a des choses sur sa vie privée qui sont peu médiatisées, qui sont complètement dingues.
Oui, oui. Sa mère qui se tape
la vie privée de sa mère,
c'est catastrophique.
Qui sort avec un de ses potes,
oui,
et avec des menaces et des trucs, mais je veux dire, on est lui en NBA, il démarquerait pas, hein,
ouais,
attention,
c'est vrai.
On a fait le tour pour le premier sujet, c'est l'avenir de Jamoran. Maintenant on va s'intéresser à l'aspect sportif et donc aux conséquences sur les Grizzlies.
Ladies and gentlemen, the NBA just gets crazier and crazier. The season isn't over yet, and with all the changes that happened, especially at the trade deadline, the Grizzlies on the other hand are in a funk and have gone 4-6 in their last 10 outings. The Western Conference became the Wild Wild West again. After them are the Golden State Warriors, who currently are sitting in 9th. They're only 2 games back from the 10th seed and 3 games back from the 8th seed.
Alors c'est un spécial Bad Boys, spécial Jamorant dans Basket Time cette semaine. Et on va donc s'intéresser aux conséquences sportives donc dans la conférence Ouest, parce que non seulement Jamorant, potentiel MVP quand même, un joueur de très très haut niveau, est suspendu peut-être pour une longue durée, mais en plus ça coïncide avec un coup du sort. La blessure de l'intérieur Brandon Clark, ça fait donc 2 joueurs importants de cette franchise qui était quand même deuxième à l'Ouest et l'une des très bonnes surprises de la saison, coup sur coup. La conférence Ouest est-elle relancée? Voilà tout simplement une question très simple. À l'Ouest, il y a toujours une domination des Nuggets et ensuite une énorme bataille pour les spots, les bons spots de play-off. Peut-être que les Grizzlies vont le payer très cher tout ça, Fred.
Mais je sais pas, parce que c'est vrai qu'ils ont, ils nous ont quand même...
Ils
ont quand même habitué à savoir jouer très, très correctement sans Jamoran, par exemple.
Tout à fait, l'année dernière, notamment.
Notamment. Donc, je me dis que peut-être que ça peut tenir au moins jusqu'au play-off.
Excellent teasing, tu vas développer tout ça après que Arnaud nous ait rappelé un peu quelles sont les bonnes et les mauvaises dynamiques justement dans cette conférence Ouest.
Tu l'as dit, Denver est seul au monde à la première place, 46 victoires. Ensuite, tu as Memphis et Sacramento, deuxième, troisième, à 7 victoires. On peut penser que les Kings vont se maintenir et que Memphis va faiblir un peu, mais ils ont quand même 5 victoires d'avance sur la 7e place, donc à 20 matchs de la fin, les playoffs sont quand même presque sécurisés. Et justement, tu as Phoenix qui revient bien, 4e à 10 victoires, et après tu as ce paquet d'équipes, des Warriors 5e, jusqu'on peut même inclure les Pelicans qui sont à la 12e place. Tu as seulement 3 matchs d'écart, même aller au Oklahoma City, on peut y aller, hein. 3,5 matchs d'écart entre tout le monde, 9 équipes seulement pour 2 places restantes en playoffs. 4 places en play-in, donc ça veut dire 3 qui restent sur le carreau, même si on peut penser que les Pelicans sans Zion seront courts, et puis le Thunder également. Et sachant que sur la dynamique à la mi-saison, on avait les Pels 3e à 26 victoires, ils sont depuis à 4 victoires, 15 défaites. On a Phoenix qui revient très fort, ils sont à 15-6 depuis la mi-janvier, et le reste se maintient avec des bilans à peine à l'équilibre. Je peux penser aux Mavericks, aux Clippers notamment, qui sont voilà, dans ce gros paquet avec le Jazz, avec les Blazers, avec les Timberwolves, les Lakers, pour cette bataille assez incroyable pour les 2 places en play-off restantes et les 4 places en play-in.
Attention au comeback des Spurs qui sont qu'à 22 victoires de la 2e place. Hein. Méfiez-vous quand
ouais,
même.
Franchement, hein. À 20 matchs de la fin, c'est possible.
Alors ce qui est fou, non, mais sans rigoler, c'est Oklahoma City en vérité, hein, qu'on pensait encore.
Qu'on pensait qu'il ferait une saison à bazarder et finalement pas du
tout. Ouais, ça fait 20 ans qu'il bazarde, donc à un moment donné, il faut jouer. À force d'avoir récupéré des tours de draft et compagnie, bon, t'as des joueurs qui peuvent jouer au basket à un moment donné.
Ils n'ont pas Chet Holmgren.
Mais à part Gilgeous Alexander, là,
il y a
Josh Giddey qui est bon. T'as le petit Jalen Williams là, qui fait des stats de ouf sur les dernières rencontres. C'est une équipe qui est correcte. L'année prochaine, il récupère Chet Holmgren.
Revenons aux Memphis Grizzlies, aux conséquences à l'Ouest. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent réaliser une série similaire à l'an dernier où ils avaient été privés de Ja Morant, où ils avaient continué à performer, Fred?
Concrètement, ça paraît plus compliqué. Ça paraît plus compliqué parce que déjà, à l'Ouest, c'est plus dense. Et aussi, la problématique, c'est qu'on est sur la fin de saison. Les rosters vont être plus resserrés. Les rosters vont plus jouer. Il y a des équipes qui vont forcément monter. Je pense aux Clippers qui, à un moment, ils vont finir par bien jouer au basket, c'est obligatoire. Les Mavs aussi. Donc, je pense qu'ils devraient rétrograder un petit
mais
peu.
Mais j'ai eu de Golden State. Hein. Steph a donné rendez-vous. Hein.
Mais effectivement,
je me sens bien.
Et les Warriors sont 5e. Hein. Et ça joue pas super bien. Steph n'était pas là. Ouais, effectivement, il y a des équipes qui sont dangereuses. Et que dire des Suns? Évidemment, que dire des Suns.
Exact, très très bon exemple, puisque je suppose que on peut mesurer déjà l'influence de Kevin Durant.
Il faut jouer au basket, hein. Il met quelques paniers.
Il faut se méfier de ces franchises.
Non, mais il a quand même
des
capacités. Il est blessé, il revient.
Stephen Curry à Golden State, ça fait quand même la diff, hein, le sprint final.
Les chiffres, Fred l'a dit, l'année dernière, ils ont joué 25 matchs sans Ja Morant, ils ont gagné 20. C'est énorme. Ils ont une base défensive qui est très forte. C'est le 2e defensive rating avec Jaren Jackson qui est favori pour être éventuellement le défenseur de l'année cette saison.
3,3 points
par match. C'est le meilleur contreur de la ligue. Il est monstrueux. Après, on sait qu'ils ont des arrières capables de scorer. Desmond Bane qui fait une saison fantastique, qui risque de monter en points, mais à un moment donné, il va pas monter à 30 points de moyenne. Tyus Jones est pour moi un des backup le plus sous-côté de la ligue, qui apporte un peu plus que Ja Morant défensivement, mais bon, en attaque, c'est pas Ja Morant. Et la perte de Brandon Clark, elle est préjudiciable, c'est exactement le terme que je cherchais. Elle est préjudiciable parce que c'est un petit poste 5 qui a beaucoup d'activité, qui est ultra athlétique.
T'es bien, il a du juice. Hein.
Lui, il a du juice. Finition flotteur près du cercle, et il se trouvait bien avec Ja Morant. Et surtout, Steven Adams, qui est toujours pas revenu, qui a loupé 18 matchs. Donc, ça fait beaucoup de monde en moins. Je pense que les Suns vont passer devant, parce que vous l'avez dit, Kevin Durant est fantastique, et que le trio Booker, Paul, Durant, je pense que ça va finir devant. Je pense que les Kings vont passer devant, et moi, je me mouille un peu. Je vois Memphis pas dégringoler, pas une catastrophe. Je pense qu'ils vont finir 4e. Il va y avoir le remake de la saison dernière contre les Warriors, qui vont finir 5e. Ça va être 4-5 avec Memphis l'avantage du terrain. On rappelle
mais cette fois-ci, peut-être sans Ja Morant du tout.
Sans Ja Morant qui avait loupé les deux derniers matchs de la série l'année dernière, qui
est-ce
était blessé.
Est-ce qu'il leur coûte sûrement
Est-ce qu'il leur coûte la victoire? Est-ce qu'il avait été le début d'une petite rivalité entre les deux? On sait que Dylan Brooks va à la charge sur Draymond Green. Il n'arrête pas de dire que Draymond Green, c'est une pipe en bois. S'il n'était pas Warriors, personne ne connaîtrait son nom. Il y a une vraie rivalité entre les deux. Donc, moi, je pense qu'ils vont perdre des places, qu'ils vont pas dégringoler, qu'ils vont finir 4e. Mais après, si vous n'avez pas Ja Morant, en playoff, à un moment donné, c'est bien les équipes. C'est bien les équipes structurées. Mais ce qui fait la maille, c'est les superstars.
Mais bien sûr.
Et sans Ja Morant, je vois pas comment ils peuvent passer contre les Warriors.
Possible,
on peut pas passer contre les Warriors.
Arnaud.
Ouais, en 7 matchs sur une série, tu as besoin, et on a vu l'énergie que ça te demande. Et puis, tu as aussi du métier. Les Warriors, ils savent comment renverser des situations quand tu es mené dans une partie.
Ils ont forcément plus d'expérience, évidemment.
C'est chez eux, les playoffs, les Warriors. C'est chez eux. Ils ont les clés de la boutique, ils sont sur le canapé, peinard, et ils vont attraper les Warriors. Après,
et tu n'as pas ta superstar qui va te mettre les points quand
exactement.
Il faut. Tu n'as pas ton go-to guy.
Exactement. Et il faut aussi jeter un œil au calendrier de Memphis. Qui est très
c'est
compliqué.
Solide, là, hein.
Qui est très compliqué.
Fois Dallas,
ils vont jouer trois fois Dallas, deux fois les Warriors. Pour éventuellement une confrontation directe, deux fois les Clippers et les Bucks. Ça veut dire que c'est costaud. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est costaud. Et si tu n'as pas Ja Morant sur ces matchs-là, je ne veux pas enlever du crédit à Jaren Jackson, à Desmond Bane, à Tyus Jones, mais ça va être compliqué d'attraper ces équipes-là. Donc, oui,
c'est pour ça que tu ne peux pas comparer ce qu'ils ont fait l'année dernière sur une période, parce que c'était une période, là c'est une période où vraiment ça joue, ça commence à sortir droite, les playoffs.
C'est là où les équipes sont supposées être prêtes et affûtées pour entamer les playoffs, donc sportivement je pense que c'est un énorme coup dur.
On peut avoir
après on est en train de parler de ça, ça se trouve il va prendre 4 matchs de suspension et il va revenir.
C'est possible. Mais bon, on peut anticiper quand même une grosse suspension, peut-être pas jusqu'à la fin de saison, mais qui peut lui le priver au moins du premier tour des playoffs. Juste sur cette conférence Ouest, puisqu'on est là-dessus, il peut y avoir d'énormes surprises. On peut avoir une finale sans le numéro 1, on peut avoir une équipe qui revient de nulle part. Je sais pas si les Lakers peuvent être concernés,
je crois que les Suns déjà ont montré
si Dallas
Je te dis que Denver et les équipes prient pour que Phoenix soit dans le top 4 et ait l'avantage du terrain. Parce que si tu tapes, c'est cata, gros. Si tu joues Phoenix sans l'avantage du terrain avec les trois monstres, plus DeAndre Ayton, que j'ai oublié.
Un Chris Paul qui met toujours le nez à la fenêtre.
C'est le pire tirage. Hein. C'est comme quand tu dis Bayern, tu finis premier du groupe et tu joues PSG. Bon. C'est le pire tirage.
Ah bon ? Mais après, c'est aussi le pire tirage de tomber sur Paris. Hein, parce que c'est ça la vérité, c'est Paris deuxième, le pire tirage.
Bah oui, c'est ce que je dis.
Paris avec Neymar ou sans Neymar ?
Je pensais que tu parlais
de Neymar. Si tu es premier de poule comme le Bayern et tu joues PSG.
Pardon, j'avais compris l'heure.
Mais cette conférence Ouest, la saison régulière, elle va faire du grabuge.
Est-ce que Phoenix aujourd'hui est favorite pour vous à l'Ouest ?
Pour moi,
ouais.
Oui.
Ouais.
Pour moi, oui. Parce que Kevin Durant, quand il arrive dans une équipe, on a l'impression qu'il a toujours joué dans cette équipe. Parce que quand les derniers ballons, tu ne sais pas à qui les donner, bah, tu les donnes malgré tout, même s'il vient juste d'arriver, à Kevin Durant. Et il fait la diff. Quoi. Parce que défensivement, il est impressionnant. Et offensivement, on n'a même pas besoin d'en parler. Quoi.
Et ce qui était intéressant dans la belle victoire contre Dallas, on sentait vraiment garder de l'énergie. Parce qu'un coup, c'est à toi, Booker, d'aller mettre le gros panier, cette action, on appelle le play pour toi. Un coup, c'était pour Durant. Donc, ils sont
et Chris
aussi prêts.
Paul qui va amener le ballon où il faut à chaque fois.
Le petit
fois,
shoot le à 3 points, à 45, qui fait mal.
En plus,
ils sont là. T'as Ayton à l'intérieur. T'as des bons joueurs de rotation. Des Ryan White qui peuvent te dépanner. Enfin, je trouve, peut-être enfin l'année, quoi.
Enfin,
maybe. Ah, ils ont tenté le tout pour le tout avec le trade sur Kevin.
Bien joué.
Ah bah oui, c'est bien joué.
Mais t'es obligé de le faire de toute façon. Oui. Qui ne l'aurait pas fait ?
C'est un Basket Time spécial Bad Boys et vous allez probablement, en tout cas, j'attends beaucoup de vous, nous régaler avec la séquence historique.
What is that? Is that the gun from Harlem's Night? Man, put that little shit away, bro. I said, I'm giving you big people shit right there. Put that little gun away.
What is he doing bringing a gun into the locker room himself?
The reason it's hard for the outside world to really understand, like, guns in the locker room. Like, oh, yeah, guns at work. Technically, yes, but technically, no. Because it's our building. It's the safest building for us. So that is actually safer than our homes because there's
security.
Yeah. So usually, jewelry, guns are there, not the house. What players will do, they'll drive from home, drive to the arena, put their guns in the locker room, go to the club, and then go from the club to the arena, get their guns, then go back home.
Vous avez reconnu
Gilbert Arenas.
Moi, rien que le débit me fait flipper. Hein, le mec, il a quand même une case en moins, non ? Gilbert Arenas, alors l'une des plus
l'agent
célèbres
zéro.
Histoires de dérapage dans un vestiaire de NBA que tu vas nous raconter, Stephen.
Ouais, Pierrot.
Dans cette partie historique, vous avez choisi un bad boy de l'histoire de la NBA.
On est obligé de raconter cette histoire. Décembre 2009, on n'est pas passé loin d'avoir un coéquipier abattu par un autre dans un vestiaire de la Ligue. Et comment on en arrive là, pour une histoire de jeu, voilà, comme d'habitude, l'argent, Pierrot, l'argent, l'avion des Wizards se déplace, Gilbert Arenas se réveille de la sieste et a envie de jouer aux cartes avec les autres, qui avait déjà démarré une partie de cartes où il y a beaucoup d'argent en jeu. Et il y a Javaris Crittenton qui a débuté la partie de cartes depuis le départ, qui est en train de perdre beaucoup d'argent. Et Arenas se réveille, il commence à chambrer Crittenton en disant t'as perdu beaucoup d'oseille, bah tiens, je vais rentrer dans le jeu. Et là, il y a une main, c'est la dernière main parce que l'avion va atterrir. C'est la dernière main et il y a Javale McGee qui fait partie de cette équipe-là qui fait un petit signe à Earl Boykins, l'air de dire oula, j'ai une belle main, j'ai une bonne main magnifique. Donc, ça, Crittenton ne le voit pas, Boykins se couche, tout le monde se couche et qui est le pigeon qui y va ? Crittenton face à Javale McGee. Et Javale McGee remporte hop, le jackpot. L'avion atterrit. On arrête de jouer. Et Crittenton a la haine en disant « Ah d'accord, vous ne me permettez pas de me refaire la main. Vous ne refaites pas un dernier tour de carte pour que je puisse gagner de l'argent. Ça, dans la rue, c'est passible d'une énorme sanction et tout ça. » Et Arenas continue de chambrer Crittenton en disant « Hey, toi, arrête de parler. Fais pas le malin. Moi, je vais te descendre dans ta voiture. Patati, patata. » Et Arenas lui dit « Tu vas me descendre. Ok, très bien. Bah, j'amènerai les pistolets pour que tu le fasses. » Bon, on pensait que c'était un peu de trash talk. Le jour suivant à l'entraînement, Gilbert Arenas arrive dans le vestiaire. Avec 4 armes non chargées, il les pose et il dit à Crittenton, allez viens enculé, bah, prends un bel pistolet et viens me shooter comme tu l'as dit. Et là Crittenton lui dit, j'ai pas besoin de cela mon grand, j'ai le mien. Une grosse différence, celui de Crittenton est chargé. Et là tous les joueurs du vestiaire des Wizards se barrent, ils ont peur, ferment la porte, est pris pour ne pas entendre des coups de feu. Finalement, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de coup de feu, sauf que David Stern entend parler de cette histoire et David Stern va sévir. Suspension des deux joueurs jusqu'à la fin de saison. Crittenton, depuis, n'a plus jamais rejoué en NBA. On a appris que 2 ans après, il avait abattu par inadvertance une femme de 22 ans, mère de 4 enfants, en voulant tirer sur un homme qui l'avait carotté. Il a payé une énorme caution, il est sorti. Ensuite, il est rentré dans du trafic de drogue et en ce moment, il purge une peine de prison de 23 ans qui s'achèvera en 2036, Javaris Crittenton.
Peut-être il reprendra sa carrière après.
Peut-être qu'il reprendra sa carrière. Gilbert Arenas, lui, ne sera plus jamais l'agent zéro. Il changera de numéro justement pour mettre de côté cette histoire-là en prenant le numéro 9. Il s'est ensuite transféré à Orlando, mais sa carrière est sur le déclin et à peine 2 ans après, il sort de la Ligue.
Petite parenthèse, et énorme joueur, très très bon meneur.
Avec un contrat monumental à l'époque.
Fantastique scoreur, mec, il mettait les 50 pions, il était précurseur à l'époque des meneurs scoreurs, Gilbert Arenas.
Il avait signé un contrat de 6 ans à plus de 110 millions de dollars, ce qui pour l'époque était énorme. Et cette affaire arrive même pas un an et demi.
Carrière fracassée donc sur cette histoire de Gunn, juste parce qu'il a chambré en fait lui au départ.
Bon, et après, l'autre avait la haine parce qu'il a dû perdre des milliers de dollars.
Il a pas l'air très très équilibré quand même comme garçon.
Ça n'avait pas l'air investir très équilibré.
J'ai l'impression qu'il est un peu plus équilibré que Crittenton quand même.
C'est pas le même genre que. C'est pas le même genre que Gilbert Bribois quoi. Un peu plus. un peu plus de haine. Bon, ça c'était une histoire à côté de laquelle on ne pouvait pas passer dans un Basket Time spécial Bad Boys. Quelle est ton histoire, Fred? Toi qui as une petite affection pour les bad boys, tu as déjà parlé de Bill Laimbeer par exemple.
Oui, exactement, mais là j'ai choisi Latrell Sprewell. Alors je vais recontextualiser un petit peu, c'est un joueur peu connu hein, parce qu'il passe par une petite fac, Three Rivers Community College. Donc pour dire à quel point je ne connaissais pas cette fac, même s'il est passé avec Robert Horry. Il finit à 18 points, 5 rebonds, donc tu vois le mec plutôt un bon joueur mais un peu sous les radars. Et à l'époque le scouting ça marche pas très bien, mais les Warriors l'ont repéré. Donc ils lui disent écoute on va faire un bluff. Tu dis à personne qu'on a parlé, on fait semblant de ne pas se connaître ou presque, on va dire qu'on veut absolument un pivot à la draft, et tu ne fais pas de workout. Donc le mec sait qu'il va être drafté, normalement un mec logique et normal.
Par Houston
Par les Warriors. Et un mec logiquement équilibré va dire « Ok, je ne fais pas de workout bah, ». Lui, il l'est fait. Mm-hmm. Bon, déjà, pour un peu contextualiser, le mec est complètement fou. Bon, par chance, il est très mauvais. Donc ça tombe très bien pour les Warriors qui finalement réussissent à le drafter et on sait que c'est un très bon joueur, donc d'entrée il est plutôt bon. En octobre 94, aussi pour continuer à contextualiser un peu le mec, sa fille s'est mordre, arracher une partie de son oreille par son pitbull et lui il dira « ouais c'est des choses qui arrivent ».
Bienvenue chez les Cassos.
Voilà, exactement, c'est Cassos Land complètement. L'année suivante il a arrêté pour conduite sans permis et excès de vitesse. Et en plus, il fera des blagues racistes à l'officier asiatique qui sera en face de lui. Donc un mec vraiment très...
C'est-à-dire quoi comme genre de blague?
Des blagues racistes.
Ne chauffe pas, toi.
Alors honnêtement, je pourrais même pas les citer parce qu'elles sont pas citées. Mais bon, voilà, on imagine très bien que c'est pas un mec très équilibré. Et finalement, son fait d'armes, c'est le 1er décembre 97. Il y a 14 matchs qui sont joués avec son équipe. Et là, son coach lui dit « Est-ce que tu peux appuyer un tout petit peu plus tes passes quand tu t'entraînes ?» Et là, il commence un peu à se chauffer, Latrell Sprewell. Et il s'approche de lui. Il veut continuer à parler avec lui, lui expliquer un petit peu. Et là, il dit c'est pas le jour, je suis pas d'humeur. Et donc le mec se rapproche encore un peu plus.
Donner des consignes.
Et là, mais c'est fini, il réfléchit plus. Il le prend à la gorge, il l'étrangle pendant une quinzaine de secondes. Donc tout le monde les sépare.
C'est PJ Carlissimo, ouais.
Exactement, PJ Carlissimo. Et tout le monde les sépare. Et tout le monde se dit ben, c'est bon, il est calmé. Il le renvoie au vestiaire, il prend sa douche, il revient, boum, il lui met une droite.
D'accord bien.
Donc bon. Là aussi, l'affaire est saisie par David Stern, qui voulait lui mettre 82 matchs, donc une saison complète de suspension. Il donnera finalement que, entre guillemets, 68 matchs. Et ce joueur est tellement fou, mais tellement talentueux, qu'il va rebondir.
Ah, lui, ça n'a pas fracassé sa carrière. Hein.
Ça n'a pas fracassé. Enfin, pas à ce moment-là encore, c'est un peu tôt pour que ça fracasse
à René à New York, non ?
Il arrive à New York, donc il joue très bien à New York, mais vous savez, donc il arrive en janvier 99 à New York. Vous savez qui est drafté par New York en 99 ?
Ron Artest, non ?
Frédéric Weiss.
Oui,
et je peux vous dire que quand j'ai vu ça, je dis, je vais devoir m'entraîner avec ce mec-là, moi je venais de Limoges.
Tu connaissais la réputation du gars et tout.
Mais ça avait fait les gros titres de partout, qu'il avait essayé de tuer son coach. Donc imaginez, moi qui venais de Limoges, où t'avais chouchouté, les mecs m'ont dit, va voir ce gars-là, et va t'entraîner avec lui. Putain, je me dis, si je perds le ballon, je suis mort. Donc juste, ce gars était complètement fou, et il finit sa carrière, quand même, c'est important de le dire. On lui fait une proposition au Minnesota Timberwolves, un contrat de 3 ans à 21 millions, et vous savez quelle est sa réponse ? Je vais la lire. J'ai une famille à nourrir. Si le propriétaire veut que je puisse le faire, il a intérêt à cracher un peu plus d'argent. Sinon, vous allez voir mes gamins dans une de ces pubs pour nourrir les enfants pauvres. Donc voilà, ah le gars était complètement fou. Et ce mec-là, avec cette phrase, il a complètement fini par enterrer sa carrière.
Ah mais avec une moyenne joueur, en carrière,
joueur
pas loin des
incroyable,
20
joueur magnifique, élégant, flippant,
flué, tout ça. Il allait au dunk, il était magnifique.
Il a commencé le basket assez tard en plus.
Donc Arenas, Latrell Sprewell, quel sera le tien, Arnaud?
Kenyon Martin avec une histoire un peu moins grave, on va dire, mais Kenyon Martin et les Popcorn. Alors, c'est le premier choix de la draft 2000. Kenyon Martin est lié fort avec une bonne petite carrière. Hein. Nets, Nuggets, Knicks, deux apparitions en finale NBA 2002 et 2003. On est le 1er avril 2010, donc c'est déjà un joueur avec un certain statut. Et il va être victime d'un poisson d'avril. Il est à Denver, il y a un match, Denver-Portland. Il est en civil parce qu'il est blessé, il assiste à la rencontre. Fin du match, Kmart, c'est comme ça qu'on l'appelait, rejoint son véhicule et déjà il comprend qu'il y a quelque chose de suspect parce qu'il essaye de déverrouiller à distance et s'aperçoit que sa voiture est déjà déverrouillée. Mm-hmm. Et il raconte ensuite l'anecdote à ESPN.
So, I get to my car and I open the door and then popcorn just fell out. I left the door open. I didn't think nothing. I turned right around and went right in the locker room. I went right back into the building. I went to the locker room. I took my jacket off. It's a dead wind. I took my jacket off. I had on a t-shirt. I took my shirt off.
Je vais à mon véhicule, j'ouvre la porte, je vois le popcorn qui descend, je re-rentre dans la salle, je vais au vestiaire, j'enlève ma veste et mon t-shirt. Donc le mec est en train de péter un câble.
Parce que sa voiture est pleine de popcorn.
Oui,
exactement,
rempli
un fameux
popcorn.
Prank, tu sais, April Fool's Day, le poisson d'avril. Donc vous avez quand même ce gars tatoué de partout, 2m6, 110 kilos, torse nu, en furie dans le vestiaire. Imaginez-vous un petit peu la scène. Alors il demande les caméras du vestiaire parce qu'il sait, il avait son portefeuille, il avait laissé son portefeuille, ses clés de voiture dans le vestiaire. Et il aperçoit que c'est son ancien coéquipier, enfin son coéquipier J.R. Smith, qui a missionné un ancien ball boy de la franchise, un certain Laquan Johnson, de remplir sa voiture de popcorn. Il raconte toujours.
I'm steaming hot. I'm like, listen, give me J.R.'s address. Right? Here, just move. Listen, give me his address. I'm going over there. Listen, Josh Kroenke called me, the gin, Messiah called, everybody calling me. Like, can you can't do nothing. I'm like, whatever, bump that. Listen, what is his address? We'll pay for the damages, this, that, and the third, whatever.
Je suis en rage et donnez-moi l'adresse de JR, donnez-moi l'adresse de JR Smith, je vais y aller. Josh Kroenke, le président, m'appelle, tout le front office m'appelle pour dire ne fais pas ça, ne fais rien JR, on va payer les dégâts. Voilà, tu vois, la franchise, elle veut pas du tout d'histoire avec JR Smith. Autre mèche courte connue quand même de la NBA, notre ami JR.
Un génie lui.
Et donc, il va s'en prendre à ce jeune Laquan Johnson, accessoirement, donc ancien ball boy, et qui était devenu le chauffeur privé de JR Smith.
So I tell the ball boy Laquan, listen, and I told the team, he's not allowed to come back to the gym. If he come back to the gym, I'm gonna slap him on sight. And I told him, listen, if you see me around Denver, Colorado, anywhere, you better leave. I'm gonna put my hands on him. Because they begged me not to do nothing to JR, listen. They begged me not to do nothing to JR.
Donc JR Smith n'est pas dans le vestiaire et Kenyon Martin dit, j'ai dit à Laquan Johnson, j'ai dit à l'équipe, non, il ne revient plus au gymnase, il ne met plus. S'il revient, je le gifle sur place. Et j'ai dit à Laquan Johnson, si tu me vois à Denver, Colorado, tu ferais mieux de partir, car je te frapperai. Et ils m'ont tous prié de ne rien faire à JR. La franchise a donc payé le nettoyage de la voiture de Kenyon Martin. Et le vestiaire, surtout, se demande encore, mais pourquoi on est allé faire
cette
un
connerie.
Prank voilà, pourquoi JR Smith a choisi Kenyon Martin, certainement le plus fou d'un vestiaire, où tu avais quand même à l'époque Chris Anderson, Reynaldo Bachmann, Néné, Carmelo Anthony et notre français Joanne Petro.
Ouais, c'est comme si tu faisais caca dans la chaussure de Moscato. Pourquoi choisis quelqu'un d'autre.
Certains l'ont fait.
Hein. Et l'ont regretté.
Ils l'ont regretté, oui, probablement. Mais tu sais, ça me fait vraiment penser à la surenchère de ce genre de conneries.
Oui,
chez les rugbymen.
Ça arrête jamais.
Entre, comment il s'appelle, Frédéric Michalak et Clément Poitrenaud, ça a fini qu'il y en a un qui a muré sa porte d'entrée avec des parpaings quand même. Hein,
et... Il ne pouvait plus sortir l'autre.
Ça peut aller très loin. Quoi.
C'est très drôle.
Oui, c'est drôle, mais c'est pour ça que l'autre est complètement débile. Kenyon Martin, il y a un gros problème d'orgueil là, parce que c'est que du popcorn dans une voiture. Il n'y a absolument rien de grave.
En fait, ce qu'il a surtout énervé, c'est que quelqu'un vienne dans ses affaires dans le vestiaire, portefeuille, clés, prenne ses clés. Et c'est presque plus ça que finalement les popcorns.
Après, moi, j'ai déjà fait ça à Nancy. J'ai pris échauffement.
Toi, t'as dû faire
échauffement, l'entraînement.
Tu cherchais qui était le bad boy. Ben voilà.
Échauffement, l'entraînement à Nancy. Je dis à Jean-Luc Monchot, hey, Jean-Luc, faut que j'aille aux toilettes, j'ai mal au ventre et tout ça. Je bats, alors que c'est pas vrai. Et je vais dans le vestiaire, je prends les clés de la voiture de Ricardo Greer qui était mon coéquipier. Hop, je vais sur le parking, je prends la voiture et je vais la garer à 500 mètres et je reviens en courant et je remets les clés. Et à la fin, Donc, pas d'entraînement, on se douche, il arrive sur le parking, il dit « Oh, ma voiture, m'a volé ma voiture !» En fait, sa voiture était à 500 mètres.
Il t'a grillé ou pas?
Oui, bah, il est, oui, au bout d'un moment, je lui ai dit que c'était moi.
Bon, après, il n'a pas fait une Kenyon Martin.
Non, pas du tout. Non, il a rigolé.
Très bien, Kenyon Martin, belle histoire, les pop-corns de Kenyon Martin. Nous allons terminer avec le quiz comme chaque semaine. Le grizzly appartient à la famille des ours bruns, des ours noirs ou des ours à collier?
Je vais dire les ours noirs.
Eh bien non, c'est un ours brun, le grizzly.
Ah ouais, c'est moi. Oh, mais il a des gros membres.
Il se tient debout très longtemps. Il est très agile de ses membres avant. Laquelle de ces espèces d'ours n'existe pas?
Le grizzly mexicain.
Le grizzly mexicain existe.
Et oui, il a un poncho.
Oh là là, Fred, évidemment.
Il boit des capirinhas.
Mon surnom à la fac était Big Faritas. N'hésite.
Grévis Vasquez.
Mais non, mais c'est soit Pau, soit Marc.
Ah, soit Pau, soit Marc.
Qu'est-ce qu'il raconte? Et en plus, je lui dis.
Alors, c'est un spécial. Attention, là, le thème du quiz, Bad Boys, Good Bears. Parce que j'ai déjà fait un quiz complet sur les grizzlies.
Et les animaux.
Donc, cette fois-ci, on va mixer.
C'est quoi? C'est les gentils garçons et les mauvais garçons.
Traduction.
Et les ours.
Pas du tout. Les mauvais garçons et les gentils oursons. Donc, il y a des gentils oursons.
Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir.
Ah, ok.
Mais comme c'est sur les grizzlies, voilà, on va parler un peu ourson. Alors,
et j'ai perdu mon siphon, là, j'ai rien compris.
Par en couille, cette émission.
Non, je vais prendre le temps de vous expliquer la thématique. Il y aura des questions sur les bad boys de la NBA, ça c'est clair.
Oui, ok.
Et il y aura des questions sur les gentils oursons. C'est tout.
Okay.
Voilà.
Les oursons de personnages de fiction, et
tout. Ah, mais tout.
Bah, oui, tu connais beaucoup de gentils oursons, sinon.
Ce sera beaucoup de personnages de fiction, mais on va quand même démarrer parce que c'est mon petit plaisir par un vrai ou faux sur le grizzly.
Oh, elle recommence ces conneries.
C'est très rapide, il n'y en a qu'une pour chacun d'entre vous. Donc on démarre avec toi, Stephen. Vrai ou faux, le grizzly est carnivore?
Le grizzly est carnivore? C'est-à-dire le grizzly mange de la viande, mange des animaux. Dans le film de The Beast, là, DiCaprio, c'est un grizzly où il dort, il le tue, il dort dedans.
Je peux pas t'aider.
Le grizzly est carnivore. J'ai envie de dire oui.
Le grizzly est carnivore et pour autant, il ne mange pratiquement que des végétaux, mais c'est donc une bonne réponse.
Merci.
Tu as le premier.
Donc du coup, il est pas carnivore, il est omnivore.
Non, il est carnivore. Il est carnivore, mais il ne se nourrit pratiquement que de végétaux.
Il tue par peur généralement, souvent les humains.
Alors, toi, fais pas le malin, parce que c'est à toi de répondre à la prochaine. Vrai ou faux, Arnaud, le bébé grizzly est plus petit que le bébé homme. Vrai ou faux?
Le bébé grizzly est plus petit que le bébé homme.
Donc, la moyenne d'un bébé homme, c'est quoi? C'est entre
3,5 kg.
Plus petit par taille ou en poids?
En poids.
Ah, en poids, donc on est sur du 3-4 kg.
Je vais dire, donc, répète l'intitulé.
Le bébé grizzly est plus petit que le bébé homme.
C'est vrai?
Eh bien, c'est tout à fait vrai. Le bébé grizzly est tout petit. Il pèse en moyenne 400 grammes à la naissance.
Ah ouais? 400 grammes?
C'est étonnant, ouais. On a appris des...
400 grammes?
Fred, vrai ou faux, le grizzly vit en solitaire? Toi qui es un beau grizzly et qui aime bien aussi ta solitude, tu devrais le savoir.
Vu ce que tu viens de me dire, j'ai envie de dire oui.
Et c'est vrai, c'est vrai.
Ouais, moi, quand je traîne dans la forêt de Meudon, ils sont jamais ensemble. Ils sont toujours solo.
Le grizzly vit en solitaire dans un territoire très étendu et il y part quand il en a besoin, la chasse à la femelle.
Il n'y a pas de pote. Ah, de temps en temps, il a besoin d'une petite cartouche,
voilà,
le grizzly.
Mais il est en famille. Tu vois,
c'est une belle vie, la vie de grizzly, finalement.
Crac, il attrape une nénette et il se barre comme un salaud. Donc, vous avez chacun votre point. Félicitations, vous avez grandement progressé sur votre connaissance de la faune. Nous allons passer au basket. Écoutez,
merci.
Alors là, vous vous concentrez parce que c'est rapide. Il faut essayer de comprendre un peu le contenu, sinon vous ne trouverez pas la réponse. Qui parle?
Oh, Bill's a great guy. I have a lot of respect for him, but it was fun punching him.
Isaiah Thomas?
Alors, c'est pas Isaiah Thomas, mais t'es quand même sur Joe la bonne piste parce que le Bill est effectivement Bill Laimbeer.
Rick Mahorn?
Non.
Chuck Daly?
Rodman?
Non, c'est pas Rodman. Vous voulez réécouter?
On a cité
beaucoup de Pistons, mais peut-être qu'il ne s'agit pas d'un Piston, mais d'un adversaire des Pistons. Réécoutez.
Oh, Bill's a great guy, I have a lot of respect for him, but it was fun punching him.
Vous avez compris?
Larry Bird?
Non. Alors, vous avez trouvé, vous avez fini par trouver. Normalement, c'est pour toi, ça, Fred. C'est quelqu'un qui a eu maille à partir avec Bill Laimbeer.
Charles Barkley,
absolument. Oui. Énorme baston que j'ignorais, donc j'ai découvert en préparant cette émission. Dans un match entre Détroit et Philadelphie en 1990, ils s'échangent 2-3 droites. Alors,
À l'époque, ils envoyaient des parpaings.
Ouais. Heureusement, ils se ratent, mais bon, belle petite empoignade. Et en fait, Barkley revient sur cet épisode 3 ans après, alors qu'il est aux Suns, en disant « et j'ai énormément de respect pour Bill, à qui j'ai mis une bonne patate ». Donc le point va à Stephen. Ça fait 2 points pour Stephen, 1 point pour Arnaud et 1 point pour Fred. Je remarque quand même que vous êtes meilleur sur les Grizzlies que sur la NBA. tous les deux. Qui a déclaré ceci ? Alors, c'est pas du tout une déclaration d'actualité, hein, ça date. Hein. Ce gars est taré, je ne l'aime pas,
Larry Bird.
Mais je pense qu'il est malade. Ça n'est pas normal que des gens comme ça soient laissés en liberté dans les rues. Il faut qu'il lui trouve de l'aide. Ce gars est complètement dingue.
On cherche le gars en question,
qui parle.
Le gars qui parle.
Hein. Je vous dirai de qui il parle.
Kobe.
Pour vous aider. C'est pas Kobe, c'est légèrement antérieur. C'est une époque antérieure à Kobe. On parle des bad boys de la NBA. Hein, donc
Magic.
C'est pas Magic qui parle, mais en termes de période, tu te rapproches.
Isaiah Thomas.
C'est pas Isaiah Thomas.
Joe Dumars.
Joe Dumars.
C'est pas Bill Joe Dumars.
Rodman.
Bill Laimbeer. On parle de Dennis Rodman. C'est quelqu'un qui parle de Dennis Rodman.
Ah, parle de Dennis Rodman. C'est pas la bonne réponse alors.
Scottie Pippen, absolument. Alors que Dennis Rodman est encore au Pistons.
Ah, ok, d'accord. Ils étaient pas.
Et au moment de l'introduction de Rodman au Hall of Fame, il raconte une anecdote. Phil Jackson dit bon, tu vas venir aux Bulls, mais va dans la cuisine et excuse-toi auprès de Scottie Pippen.
Parce que donc à l'époque où Rodman est à Détroit, il y a grosse rivalité déjà avec avec les Bulls.
Oui. Ils ont savaté des mecs.
Évidemment. Donc c'est Fred qui a un petit point de retard. On repasse aux gentils oursons. Vous allez écouter ce générique.
Winnie l'ourson.
Petit ours Séverin. Pandy
Booba. Booba. Mais Booba, le petit ourson.
C'est bien Booba. Alors, je vais accorder un point à Fred parce que c'était au départ la question d'origine, c'était de reconnaître ce générique. Mais comme c'était trop facile, puisque les paroles c'est Booba, Booba, le petit ourson, il y avait une deuxième question.
Chantal Goya.
Chantal Goya, c'est la bonne réponse. Ça fait 3 points pour Steve, 2 points pour Arnaud et 2 points pour Fred. Donc, ça c'était pour les gentils
ourson. C'est le mari de Chantal Goya?
Je le savais, mais
Jean-Jacques Debout.
Jean-Jacques Debout.
Ouais. C'est le meilleur pote de Sanchez, Alexis Sanchez.
J'attendais la vanne parce que je voyais sur sa tronche qu'il y avait une vanne. Quel bad boy historique de la NBA a évolué au Sichuan Blue Whales en Chine?
Arenas?
Non, c'est pas Gilbert Arenas.
C'est Meta World Peace.
Meta World Peace exceptionnel. Ah. Ron Artest qui a décidé un jour d'en finir avec son côté obscur et donc de s'appeler Meta World Peace. Bravo Steve, ça fait 4 points pour Steve. 2 points pour Arnaud, 2 points pour Fred. Charade, mon premier. Alors attention, charade, ça peut être pour trouver un bad boy.
C'est
ou
nom,
un gentil
nom et prénom.
Son, nom et prénom.
Prénom ou nom.
Prénom
ou
et nom, nom. Prénom.
Prénom
et nom.
Prénom non.
Mon premier est une divinité. Mon second est la conséquence d'une dilatation d'une veine.
Dilatation de quoi?
D'une veine. Dilatation d'une veine. Mon troisième est un abruti. Mon quatrième pèse 1000 kilos.
Tim Kempton. Tim Kempton.
Non. Et mon tout
pas mal,
n'est pas un gentil ourson.
Javaris Crittenton.
Javaris Crittenton. La divinité Ja, la dilatation de veine, l'avarice, évidemment, un abruti, un crétin.
Crétin et tonne.
Bravo Steve, 5 à 2, vous allez avoir du mal à revenir, mais peut-être que les gentils oursons vont vous permettre de marquer un point. Winnie l'ourson, évidemment, on va en parler. Quel est son nom en version originale?
Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh,
ouais. Winnie the Pooh, absolument, Stephen le plus rapide. Et on va terminer, alors c'est une question intéressante, nous avons un score de 6 à 2 pour Stephen, 6 pour Stephen, 2 pour Arnaud, 2 pour Fred.
D'où Pujeter, juste pour revenir, Pujeter, c'est à cause de ça aussi. Winnie the Pooh,
pas,
un joueur de basket.
Ouais,
Pujeter.
Ah ouais, là, on parle de Limoges.
Non, enfin,
pas que.
C'est un bon
pas
joueur.
Que,
c'est un très
beau
joueur.
Okay, good
d'ailleurs, je crois que c'est le plus petit club de sa carrière, je crois.
Hein, peut-être. Non, parce qu'il a joué avec moi en Espagne.
Champion, champion.
À Minorque.
Je peux vous accorder plusieurs points pour cette question, même à 4, ça me paraît beaucoup quand même. Tour à tour, vous allez me faire des enchères.
Tour à tour, on va faire des enchères.
Ok. Vous devez me donner tous les clubs de Stephen Jackson. Aucune erreur n'est permise. Aucune erreur n'est permise. Vous me donnez un mauvais nom, c'est terminé. Hein. Donc, combien de franchises de Stephen Jackson es-tu capable de me donner, Stephen? Et je ne vous donnerai pas le nombre maximum.
3.
Alors, tu enchéris, Arnaud?
Franchement, là, je sais.
Bah, enchéris si tu veux gagner.
Monde compris.
Je t'accorde un point supplémentaire par nombre au-dessus de 3. Si tu me dis donc 7, tu marques 4 points, tu fais match nul avec
7. Tu passes de 3 à 7, c'est beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup.
Allez, pour le sport 4.
Pour le sport 4, tu peux marquer 2 points. Fred.
Moi je suis Winston Churchill, no sport. Donc non, je ne suis pas.
Mais pour le sport,
ça sert à rien.
La victoire.
Il m'en faudrait 7 pour le battre.
Exactement.
Donc non.
Et les 7, il les a. Je vous dis tout de suite, les 7, il les a. Il les a faites. Stephen Jackson. Donc vous pouvez même aller jusqu'à 8. Donc on n'enchérit pas. On reste à 4, Arnaud. D'abord, Steve, est-ce que tu veux enchérir?
Je laisse Arnaud.
Allez, Arnaud.
Je les ai pas. Hein.
Tu les as pas, les quatre?
Non. Oh, si tu m'as. Bon, Indiana.
C'est bon. De 2004 à 2007.
J'ai vraiment pas une autre qui est
champion,
évidente, quand même.
Champion.
Il y en a quand même une qui est évidente.
Il est champion avec une franchise.
Avant même Indiana. Quand même.
Non, je te dis, je sèche. Les Spurs.
Bah oui, quand même. Deux fois les Spurs. 2001, 2003, 2011, 2013. Tu m'en as promis quatre, hein. Après, il y en a une autre que tu dois trouver.
En fait, j'ai bien compris que t'as les quatre, mais t'en avais qu'un.
Mais oui, mais il m'a poussé à la consommation, Pierre. Il m'a dit, allez, vas-y, je t'accorde un point en plus.
Oui, mais à la consommation, c'est quand on a trois et que t'en achètes un quatrième.
Il y en a une autre Charlotte. Dans laquelle il est resté. Alors, Charlotte, c'est bon. De 2009 à 2011, tu peux en trouver une autre, hein, quand même. Il y en a au moins une autre que tu peux trouver. Tu l'as?
J'ai envie de tenter,
Stephen,
je sais pas pourquoi.
Je crois que j'ai Atlanta, non?
Alors, laisse d'abord répondre.
Tu l'as.
Lennox?
L'Enix, non, c'est pas bon. Donc tu perds tes points que je vais attribuer à 2 pour Fred et 2 pour Stephen. Alors il a démarré aux Nets, Stephen Jackson, 2001-2002. Ensuite les Spurs, ensuite il va à Atlanta, bravo ouais. Stephen. Les Pacers, et après les Pacers, il y a quand même 4 saisons aux Warriors.
Exact, avec Baron Davis, avec ton gars,
avec Monta Ellis.
Je pensais que vous auriez les Spurs et les Warriors à coup sûr. Ensuite, il y a des Bucks un peu. Ensuite, il y a les Charlotte Bobcats, deux saisons et une saison aux Bucks 2011-2012. Il a même refait ensuite une saison aux Clippers 2013-2014. Stephen, tu as gagné.
Stephen,
bravo.
Stephen Jackson.
Et à la semaine prochaine.
Ciao. RMC Basket Time.